Micro-cravate.
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 Micro.
Micro-cravate.
Micro-cravate.
Vous écoutez Micro-cravate, l'émission de reportage et création sonore qui se balade entre Bruxelles et Montréal. L'automne est arrivé, on commence à se sentir là, et vieux. Alors on attrape son chat, ses aiguilles à tricoter, et on se cale dans un fauteuil bien moelleux. Ne vous égarez pas entre l'opéra et les urgences. Aujourd'hui, on se fait une émission Cozy Mamie. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 15e numéro de Micro-cravate sur Choc, qui vous sera présenté par Gauthier Piatek.
Salut Anna, bonjour à tous.
Et moi-même, Anna Massé. Premier reportage, Montréal et ses tricoteuses.
Que nos esprits s'épanouissent.
Sophie Poisson est allée à un atelier de création laineuse à la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges. Organisé par le collectif Ville Laine, le groupe propose des activités tricot et la possibilité aux participants d'exposer leurs travaux aux yeux de tous. Ville Laine essaye également de faire découvrir la ville sous un autre angle, à grand renfort de graffitis laineux. On écoute.
L'idée, c'est de faire le tour d'une baguette, puis après ça, d'aller faire le tour de l'autre par en dessous. C'est comme un moulin à vent, on tourne constamment.
Dans n'importe quel sens?
Toujours
en dessous.
Oui, le sens, c'est pas important le sens, tant qu'une fois que vous avez commencé, vous gardez toujours le même.
Un petit traçage.
Ici, on a la chance à la Maison de la Culture d'avoir un espace extérieur à l'intérieur de la galerie au deuxième étage. On a un jardin sur le toit. Alors, il y a une pergola, une structure pour faire de l'ombre, mais en acier gris, un peu moche. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a recouvert les piliers, puis le toit de lainage super coloré, des couleurs vives, ensoleillées, faites à la main. Partout. Puis il y a des plantes qui poussent. Donc il y a des vignes qui poussent sur les piliers puis qui habitent le tricot aussi. Moi, je mets beaucoup mon tricot sur la rue habituellement, sur les lampadaires, les voitures, avec la permission, bien sûr. Les arbres, les bancs de parc, des petits objets du quotidien. Ouais. Même sur le pilier de l'échangeur turcot. C'est en partie pour se réapproprier l'espace urbain, parce que souvent, c'est un espace anonyme, bien qu'il appartient aux citoyens. Puis aussi pour... au début, c'était pour m'éloigner, de sortir de la galerie, de l'institution des arts. Puis aussi faire sourire les gens, mettre de la couleur, de la chaleur humaine sur leur parcours. Enfin, j'ai un élément de surprise parce que les gens s'y attendent vraiment pas. Mais aussi, on s'aperçoit que ça tisse énormément des liens sociaux. Alors, on aime beaucoup faire des ateliers participatifs avec la communauté et appuyer des causes. Mais aussi, on s'aperçoit que des fois, de vouloir laisser notre trace, on crée une espèce de toxicité dans la ville. On laisse des matériaux plus ou moins naturels. Il y a aussi toute cette exploration de l'homme envers la nature, de la vie moderne, de la vie urbaine versus les trucs plus traditionnels. Il y a tout un beau questionnement qu'on peut emmener aussi autour de ça. Puis c'est sûr que sur la rue, c'est considéré comme de l'affichage illégal. Mais on est vraiment chanceux à Montréal, il y a une tolérance par rapport aux interventions artistiques. Alors, on n'a pas trop de problèmes, mais souvent, ça, les œuvres disparaissent plus ou moins rapidement. On n'a pas de contrôle dessus. Il y a quand même une partie de jeu ou une partie d'adrénaline à le mettre sur la rue. Versus quand c'est des projets plus officiels, il y a plus de contraintes, mais il y a aussi des belles rencontres à faire à travers les deux sortes de projets.
Maman, il me reste plus vraiment beaucoup de laine. Je vais-tu changer?
Finis-le.
On va même pas faire deux tours avec.
Tu veux utiliser quatre couleurs pour ton aile de dragon? Ben oui, pas de problème. On a des ciseaux.
Où est-ce qu'on peut retrouver votre travail, par exemple, à Montréal?
À Montréal, il y en a un tag, ça fait 3 ans qu'il est encore là, qui est sur sur Saint-Viateur, au coin de Clark. Un tout petit tag, si vous pouvez le trouver, là, c'est bon. Puis l'œuvre ici, aujourd'hui, à la Maison de la culture, on la déménage à la Maison bleue, qui est sur la rue Plamondon, un peu plus loin dans Côte-des-Neiges. Elle va être là tout l'hiver, puis l'été prochain. Aussi, on a une exposition qui s'appelle « Mystique radioactif » au Jardin du Précambrien à Val-David. Puis ça, c'est vraiment un bijou d'endroit. C'est une galerie d'art à ciel ouvert dans la forêt boréale. C'est super.
Est-ce qu'il y a des difficultés, justement, à tricoter pour la rue? Est-ce qu'il y a des spécificités?
Ben, des fois, c'est de penser à la hauteur. Un des trucs... souvent, c'est comme d'amener une bonne échelle assez haute, là, puis de passer par-dessus nos vertiges pour pouvoir accrocher des choses très, très, très haut, là, des fois 20 pieds dans les airs. D'ailleurs, je convoite de recouvrir... Ah, mais ça, c'est comme une idée folle que j'ai depuis environ juste une semaine. Mais il y a une structure dans mon quartier qui est énorme. Je pense qu'elle fait 200 pieds de haut. Puis je voudrais pouvoir la recouvrir au complet. Mais ça, tu vois, je pense que ça va prendre 2-3 ans facile.
Et quel est votre prochain projet?
Peut-être un piano, peut-être 2 pianos. C'est en négociation. Puis, des surprises. Oui. Mais j'apprends à tricoter, parce que je fais tout à la main présentement, puis j'apprends à tricoter avec une machine. Avec un artiste britannique. On travaille sur une collaboration pour... créer une animation tricotée. Ouais. Alors, soit une projection à travers de la dentelle ou un jacquard comme une illustration qui est tricotée puis qui bougerait.
Ça, je me t'attache ici. Tu prends un petit bout de visage comme ça. Tu en as déjà un. Merci.
Comme une vieille femme, je te regarde grandir. Dans la vie toute réussie, tu es vraiment parfait, tu es vraiment bien fait. Comme un trapéziste anglais, tu me plais, tu seras toujours mon préféré, le préféré de ces dames. Mon amour, mon chéri, mon amour. Mon ami, je te revois dans cet appartement où nous faisions des pas de danse. La peau de bête aplatie sous nos pas révèle instantanément de romantisme aigu. Nous nous aimions devant la radio en transe. De pluie où tu étais parti acheter une voiture pour m'emmener loin de ce fourbi, de cette ville maudite où nous nous ennuyons seuls dans cette chambre. Tu n'es jamais revenu, tu es parti lâchement avec peut-être une grue ou n'importe qui. Je ne t'ai jamais revu, je repense à toi tout le temps quand j'entends cette musique d'antan. Mon amour, mon chéri, mon amour, mon ami, mon amour, mon chéri, mon amour, mon ami. Je reste seule dans cet appartement en écoutant la radio et cette musique tout le temps. Je deviens folle, mais qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je fais? Mais je ne fais rien, je t'attends bêtement, je t'attends tout le temps. Mon amour, mon chéri, mon amour, mon ami. Oui, j'en suis sûre, tu reviendras. Et j'attends ce moment dans mon appartement. J'attends tout le temps ce moment. Viendra-t-il un jour? Je l'espère vraiment.
Relax. Micro-cravate.
On continue à se laisser bercer jusqu'en Belgique. Émilie Pomereau était sur les traces des anciens cinémas bruxellois. L'Eldorado, le Métropole, l'Agora, ils ont depuis disparu pour se transformer en boutique ou en parking. Heureusement, Bernadette et Jacqueline se souviennent.
Parce que je vais voir Val Gardner et puis à 6h ce soir, je verrai l'autre film Happiness, qui n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec Happiness.
Ah oui, mais, d'accord.
Oui. J'en dis pas plus.
Bon, mais très bien.
Faut pas dégager les secrets du film.
Ah, bah non, il faut pas. Vous avez l'habitude d'aller au cinéma à Bruxelles?
Oui, mais je suis parisien.
Ah, d'accord, ok.
Je suis parisien, donc j'habite Bruxelles quand même depuis longtemps. Et alors, je viens ici à la Cinémathèque au moins 3 fois par semaine, quand ça n'est pas plus, quelques fois pour une après-midi entière. Parce que c'est vraiment de très très bons programmes. Très bons programmes. Et ça ne coûte pas cher.
Ah
ben
bah oui, il faut en profiter.
Oui, évidemment. Mais j'y suis un adepte depuis le mois de septembre de l'an dernier, enfin de 2012.
Donc vous n'avez pas connu d'autres anciens cinémas bruxellois?
Très peu, parce que d'abord j'avais une activité professionnelle, non, j'avais pas tellement le temps. Oui, avec ma femme, on adorait le cinéma, bien sûr. Enfin, on avait tous les deux une activité, donc on était.
D'accord.
Et puis alors, comme on habitait en banlieue, on allait plutôt au Ezel. Le complexe du Ezel, qui est très bien d'ailleurs, qui est remarquable. Parce que pour nous, c'était pratique. Le Stenokersen, un peu plus loin que l'aéroport, prenait la voiture par le ring. Et on ne se cassait pas la tête à garer, etc. Parce que ça, venir au cinéma en ville, c'est impossible maintenant.
Et c'était dans lesquelles années?
Pardon?
C'était dans lesquelles années que vous alliez au cinéma au Ezel?
Ah bien, à partir de, disons, à partir de 1950, quelque chose comme ça, oui.
Rapidement, quelles ont été vos expériences?
Non, on ne va pas souvent au cinéma, on regarde la TV.
Je viens ici quelques fois quand ça me plaît, et puis j'aime bien les spectacles anciens, oui. C'est tout, et alors quelquefois à Bruxelles, mais c'est surtout la TV, comme dit mon ami. Voilà.
Ah, vous n'avez pas connu les anciens cinémas près de Rue Neuve?
Si, l'Eldorado et
le Métropole.
Et l'Agora.
Le Caméo.
Je brossais mes cours quand j'allais à l'Agora.
Oui, il y a très longtemps, ça.
Oui, il y a très longtemps.
Ah, bah, alors vous en avez des souvenirs quand même.
Il y a 50 ans et plus.
Et alors, comment se déroulait une séance de cinéma? Vous y allez avec qui? Voir quel genre de
avec
film?
Les copines. Ou avec les copains.
Ou avec les parents. Ou avec les parents et non, les copains, copines.
Mes parents n'étaient pas très cinéma. Moi, j'allais avec les copains et les copines.
Ils aimaient bien, mes parents aimaient bien, ma sœur aussi. Nous allions alors le dimanche après-midi ou le samedi après-midi, quoi. Et on passait une bonne après-midi parce que la télévision n'existait pas à ce moment-là.
Non, nous sommes des vieux crotons.
Mais non, pas du tout. Vous avez plein de choses intéressantes à raconter parce que tous ces cinémas ont disparu aujourd'hui.
Oui, hélas. C'est dommage parce que c'était bien. Alors, le Métropole. Il y avait le Caméo, il y avait le Victoria, je crois aussi. Il y avait
l'Eldorado. Il organisait le palmarès au Métropole. J'ai dansé comme une bergère Louis XV là-bas. Avec des petits nœuds partout.
Est-ce qu'il y avait donc aussi des spectacles? C'était pas que
mais
des
c'était
cinémas
loué. C'était loué. La salle était louée pour la distribution du palmarès de fin d'année.
Oui, voilà. C'était au Cirque Royal. Au Cirque Royal, on faisait les fêtes.
Et alors, quel genre de film, est-ce que vous avez un souvenir d'un film particulier qui vous a marqué dans un de ces cinémas?
J'aimais bien les films romantiques, dont Autant l'emporte le vent, ça j'aimais beaucoup. Films d'aventure, les westerns, les films avec Errol Flynn, que j'aimais beaucoup, c'était ma vedette préférée.
Moi, mon chouchou, c'était Tyrone Power. Et celle-ci, Ava Gardner, c'était mon idéal féminin à cette époque-là. Pia, calacala.
C'était une autre ambiance aussi, hein, les cinémas à l'époque.
Ah, c'était une fête. C'est comme maintenant, aller...
En boîte de nuit.
Non, pas du tout. Voir un très grand spectacle, par exemple le Bolshoï ou quelque chose comme ça. C'était une fête. Et puis c'était une immense salle.
C'était chouette. Il y avait des ouvreuses aussi.
Et il y avait des ouvreuses avec une petite lampe.
On leur donnait un petit pourboire. Elles étaient contentes. Elles gagnaient leur vie comme ça. On leur donnait. Elles nous guidaient dans l'obscurité.
Et puis la chanson d'Annie Cordet, Bonbon Chocolat, Esquimaux. Et on passait avec
Esquimaux et des glacés, c'était agréable, ça on léchait tout ça, c'était bien.
C'était la fête, parce qu'on ne sortait pas souvent.
Alors ça coûtait cher ou pas d'aller au cinéma à l'époque?
Non, tout dépendait de la place que vous preniez. 12 francs.
Alors, faites le calcul, 12 francs et 9 francs dans les petits cinémas de quartier.
Oui, si vous avez pris une autre place, beaucoup plus chère, au Novelty, 20 francs, mais enfin bon, c'était pas encore trop cher.
Non, c'était pas trop cher, c'était tout à fait démocratique.
Et à quel âge vous avez commencé à aller au cinéma? Vous vous en rappelez de votre première séance au cinéma?
Je crois que j'allais avec ma sœur à 12 ans, m'accompagner avec ma sœur et mes parents. 12 ans, oui, 12 ans déjà. Ouais.
Moi, à 12 ans aussi. Parce qu'avant 12 ans, je n'habitais pas à Bruxelles.
Et vous en aviez un préféré de cinéma?
Attendez, l'Agora, elle a disparu. Maintenant, c'est devenu une galerie. C'était un immense cinéma.
Moi, j'aimais bien le Métropole, c'était très bien. Et l'Eldorado, l'intérieur de l'Eldorado, était très beau.
Oui, il y avait des sculptures dorées.
Oui. C'était très beau, l'Eldorado. Il y avait un ascenseur pour monter à l'étage. Non, c'était bien.
C'était où, ça, l'Eldorado?
Le GC, le Brouckère.
Place de Brouckère, l'Eldorado.
C'était l'Eldorado.
Et l'Agora, c'était à la place de l'Agora.
Le Métropole?
Le Métropole, rue Neuve, le grand Métropole.
C'est un grand magasin de vêtements, maintenant.
En face de CA ou quelque chose comme ça.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Bonne séance au cinéma.
Merci.
Est-ce que vous avez connu d'anciens cinémas bruxellois qui ont aujourd'hui disparu?
Mais j'ai connu des cinémas de quartier, notamment Interbig. Donc à la chasse, il y avait toute une série de cinémas. Donc il y avait Léopold Palace, l'Alberto, le Novelty. Entre autres, à Rue de l'Étang, il y en avait un, je ne sais plus comment il s'appelait. Il y en avait à Rue de l'Étang aussi. Il y en avait à la Place Jourdan, près de la Place Jourdan, le Rio, le Rixi. Le Cinquantenaire, qui c'était avenue de la chasse.
On avait énormément, alors tous ces cinémas ont disparu aujourd'hui.
Ah, oui, il suffit de consulter par exemple un soir de 1960, la page cinéma, là on a toute la liste, hein. c'est pas très compliqué.
Et alors lequel était votre préféré?
Mais à l'époque, je n'avais pas un cinéma préféré, j'allais voir des films, j'allais pas visiter un cinéma.
Oui, mais peut-être qu'il y avait des cinémas qui étaient spécialisés dans certains types de films.
Non, je fréquentais les cinémas de quartier à l'époque, donc c'était pas spécialisé.
Et quelle était l'ambiance? Est-ce qu'elle a changé par rapport à aujourd'hui?
Mais la plus grande différence, c'est qu'à l'époque, il y avait donc c'était en permanent, donc on pouvait arriver n'importe quel moment. Et puis il y avait les prix différents selon les places. Donc c'était ça surtout la grande différence. Il y avait une ouvreuse, donc je crois que à l'arrière c'était plus cher, à l'avant c'était les places les moins chères, au balcon c'était aussi bien à côté. Donc il y avait l'ouvreuse qui veillait à ce qu'on s'asseye à la place qu'on avait, pour laquelle on avait payé.
Et vous y allez avec qui, dans quel genre de contexte?
Je l'ai avec mes parents.
Ik heb Wiener gezien, ik heb hem nooit gezien.
Jammer.
Het is wel de eerste, bijna de eerste keer.
Dan kunnen we een hele publiciteit maken.
Het is wel heel vrij kort, hè? Dus, maar je kunt er...
Ja, vrij kort. Ja.
Les anciens cinémas bruxellois.
Les anciens, oui.
Vous en avez connu?
Il y a longtemps. Mais justement, si on est une plus jeune, alors.
Ah, mais non, mais justement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est l'histoire, c'est tous ces anciens cinémas qui ont disparu.
Oui, mais moi, écoutez, je suis de Saventem. Et en Saventem, c'est un patelin. Allez-y, madame. Un patelin, hein. Donc là, il y avait, oui, dans le temps, il y avait 3 cinémas. Parce que nous, mes parents exploitaient un cinéma. À Kesselo, à Tessenderlo et à Saventem, à un moment donné. Mais il y a combien d'années maintenant, bon. Moi, je vais avoir 90 ans, donc il y a bien 50 ans de ça. Et ça, je crois qu'il n'y en a plus non plus. Mais ici, à Bruxelles, c'est bon. Moi, j'allais au cinéma, au Métropole. Ça, oui. Mais il a disparu, donc, hein, je crois. En quelle année, je ne me rappelle plus. Là, les dates, hein.
J'arrive à l'hôpital. Avant de camoufler sous l'uniforme blanc, mon cœur est bourriffé par le monde des rêves. Je vais dire bonjour à Armand, c'est mon vieux préféré. Armand aimait tellement la faute qu'il aimerait encore si seulement il pouvait. Armand aimait tellement le sang.
Le jour et le moment où il voudra partir.
je tiendrai ma promesse, je tiendrai ma promesse, Armand.
On termine cette émission avec une création sonore, les délices de l'attente entre opéra et visite aux urgences. Alors qu'Anna assistait à la répétition générale de l'opéra Nabucco, je me retrouvais à l'hôpital pour une crise d'asthme carabinée. De l'inhalothérapie au contralto, voici un nouvel épisode de Vos oreilles ont des murs.
J'arrive à l'opéra, je remplace Gauthier qui n'a pas pu venir à cause d'une urgence. Je rentre par l'entrée des artistes. Je suis un peu en retard. J'espère que je vais pas me faire remarquer. Non, c'est bon. Je me faufile là, dans le groupe des invités. D'autres gens arrivent et se claquent la bise. C'est Mourad qui nous accueille. Il a l'air un peu stressé.
Entre le troisième rang à peu près et puis...
La salle est presque vide, pourtant on ne s'assoit pas où on veut. On est quand même tout près de la scène. C'est impressionnant. Là, on entend les musiciens qui accordent leur instrument dans la fosse. Et là, c'est Jean, enfin je crois que c'est son nom, qui leur donne des directives. Ça s'active en coulisses et dans le public, on s'occupe comme on peut. Sur le premier balcon, il y a des jeunes endimanchés qui prennent des photos de groupe et des selfies. Sans doute des étudiants. Ah, j'ai l'impression que ça commence. Alerte. Une femme vient d'arriver sur scène. Elle semble contrariée.
On sera pas d'accord, mais il faut m'attendre.
Oui, il faut encore attendre. 15 minutes de plus, le public est devenu silencieux. On sent que c'est sur le point de commencer.
Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Opéra de Montréal. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et vous rappelons que l'usage d'appareils photographiques ou d'enregistrement est interdit.
Cette fois-ci, il faut que je coupe. La grosse dame va bientôt chanter.
J'arrive aux urgences pour une grosse crise d'asthme. Du coup, j'ai pas pu aller à l'opéra. Je prends un numéro et j'attends. J'attends encore. Il y a un infirmier du tri qui m'ausculte. Elle prend ma tension, ma température. Et elle me dit encore d'attendre. Alors j'attends. En face de moi, il y a un père et son fils qui parlent. Ils attendent et ils discutent. J'essaie de lire sur leurs lèvres. Et apparemment, il y a le papa qui va devoir laisser son fils quelques instants. Et ce petit garçon n'est pas trop content. Ils ont une sorte de petit débat à propos d'un imperméable. Je sais pas, il lui dit de le mettre. Lui, il veut pas le mettre. C'est bizarre. Un peu plus loin, il y a un monsieur qui dort sur les sièges. Il ronfle un peu. Il utilise son manteau en guise de couverture.
La première partie vient de se terminer, c'est l'entracte. Tout le monde autour de moi est très enthousiaste, mais c'est le général, alors il y a aussi des petits couacs.
Quand ils sont rentrés comme ça, il y a une mec qui était par terre à quatre pattes, genre au possible, chercher un truc.
Les deux personnes à côté de moi se demandent s'ils ont bien compris l'histoire. Et puis, finalement, il y a une troisième qui vient mettre son grain de sel.
Mais c'est pas la sœur ? Moi, je croyais que c'était la sœur. En plus, elles se ressemblent tellement, les deux.
Oui, elles sont...
Et du coup, je croyais que c'était la sœur qui justement disait qu'elle était amoureuse du même mec, en fait. La sœur vient manger.
Une trentaine de minutes se sont passées. Les gens commencent à se tortiller sur leur siège, impatients que l'histoire reprenne.
Je suis enfin appelé au secteur des urgences, le Graal. Là, il y a un jeune docteur qui me pose des questions. Il me demande comment ma crise d'asthme est arrivée, il m'ausculte et il me dit qu'il faut que j'aille faire une radio. Là-bas, au rayon X, il y a un interne qui me dit que j'ai des grands poumons. Enfin, ils sont proportionnels à ma taille, quoi. Et au final, je me retrouve à faire une inhalothérapie. C'est-à-dire que je dois mettre un masque et respirer des médicaments. Je suis assis à côté d'un monsieur qui est d'origine brésilienne. Il discute avec sa famille au téléphone. Apparemment, il est là depuis 10h ce matin. Il fume trop. Il dit qu'il fume à peu près un paquet de cigarettes par jour. Et du coup, il a fait une grosse crise. On respire dans le masque. Ça va un peu mieux. Ça fait de la vapeur. C'est plutôt rigolo. Par la porte, je vois le monsieur qui dormait dans la salle d'attente. Il se met à râler et il dit que ça fait trop longtemps qu'il attend, qu'il veut tout de suite voir un médecin. Une fois que j'ai fini mon inhalothérapie, il y a une infirmière qui arrive et qui me réexplique comment on se sert d'une ventoline. Il faut bien faire attention à bien aspirer tout le médicament. Au final, c'était pas si grave et je vais pouvoir rentrer à la maison. Ça fait du bien de pouvoir enfin reprendre son souffle.
C'était Micro-Cravate. On remercie les journalistes et artistes qui ont participé à l'émission, ainsi que ceux qui nous ont écoutés sous la couette. Micro-Cravate revient dans un mois. D'ici là, retrouvez les podcasts de l'émission sur choc.ca et plus de reportages sur le site microcravate.com. À 17h, c'est Mutation. Bonne fin de semaine sur Choc.
Bon dimanche.
I need two words, okay? Micro-Cravate.
Micro-Cravate.